Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi 16 avril 2021. Merci d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le président iranien a qualifié de sans fondement les déclarations de Paris, de Berlin et de Londres à propos de la décision annoncée par Téhéran d'enrichir l'uranium à hauteur de 60%. Nous n'avons pas le temps pour des négociations d'usure, a souligné le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Damas condamne l'opération terroriste lâche contre l'installation nucléaire de Natanz. Même réaction du côté de la résistance yéménite. Ansar Allah qui a condamné fermement le lâche sabotage contre l'installation nucléaire de Natanz. Et la résistance yéménite a visé des cibles à 10 ans à l'intérieur de l'Arabie saoudite. De nouvelles sanctions américaines ne favoriseront pas un sommet Biden-Poutine, selon le Kremlin. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a jugé jeudi sans fondement les inquiétudes affichées par la veille par Berlin, Londres et Paris à propos de la décision annoncée par Téhéran d'enrichir l'uranium à hauteur de 60%. Des inquiétudes exprimées en Europe et aux États-Unis sur le fait que nous en Iran commençons à enrichir à 60%, cela signifie pouvoir atteindre 90% d'un seul coup, mais c'est une erreur, a déclaré M. Rouhani. Nos activités sont pacifiques. Nous ne cherchons pas à obtenir la bombe atomique, a-t-il souligné. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, négociateur en chef de l'Iran à Vienne, Sayed Abbas Araghchi, a souligné que l'Iran n'a pas le temps de mener des négociations érosive. Nous devons voir dans la pratique qu'il y a une accélération raisonnable et acceptable pour parvenir à un accord, a-t-il souligné. Alors, Xi a déclaré à l'issue de la réunion de la commission mixte du plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015 à Vienne. Aujourd'hui, la réunion a duré environ 2 heures et finalement, il a été convenu que les groupe de travail reprennent leur travail à partir d'aujourd'hui après-midi. Tous les pays ont convenu que nous devons entreprendre maintenant un travail sérieux et pratique, a-t-il souligné. L'ensemble des sanctions que les États-Unis devraient lever et les mesures que l'Iran devrait prendre devraient être soigneusement énumérées, identifiées. Un accord devrait être conclu dès que possible, a-t-il souligné. La Syrie a condamné vivement l'opération terroriste contre l'installation nucléaire iranienne de Natanz et l'attaque qui a visé le navire iranien Saviz et a affirmé son plein soutien à l'Iran dans la défense de ses intérêts et la réalisation de davantage de progrès scientifiques et technologiques. Et une source du ministère syrien des Affaires des étrangères a exprimé la vive condamnation de la Syrie de l'opération terroriste contre l'installation iranienne de Natanz et de l'attaque qui a visé le navire iranien Saviz au large des côtes de l'Érythrée, faisant savoir que de toutes les preuves démontrent la responsabilité de l'entité sioniste de ces agressions pour entraver les négociations en cours à Vienne sur le programme nucléaire iranien. La Syrie voit que ces attaques n'affecteront pas les capacités industrielles iraniennes et qu'elles démontrent l'incapacité des ennemis de l'Iran à entraver le développement des industries pacifiques et les capacités scientifiques iraniennes, a souligné de cette source du ministère iranien des affaires, du ministère syrien des Affaires étrangères à l'agence SANA. La source a conclu en affirmant la solidarité de la Syrie avec l'Iran face à toute agression et son plein soutien à l'Iran pour la défense de ses intérêts et la réalisation de davantage de progrès technologiques et scientifiques. La résistance yéménite avait fermement condamné le lâche sabotage contre l'installation nucléaire iranienne de Natanz. Le bureau politique du mouvement de résistance yéménite Ansar Allah a fermement condamné le lâche sabotage contre l'installation nucléaire de Natanz. Le dimanche 11 avril, cette installation a été en fait visée par une attaque qui a provoqué une panne électrique sans causer de pertes humaines ni de fuite. Dans un communiqué publié, Ansar Allah a confirmé le plein droit de l'Iran de posséder et de développer son programme nucléaire et de riposter de manière qu'il juge appropriée à cet acte. Les États-Unis, dotés d'un arsenal nucléaire militaire et connus pour leur histoire criminelle, ainsi que leur protégé Israël et leurs alliés, n'ont pas le droit de susciter des inquiétudes concernant le programme nucléaire iranien destiné à des fins pacifiques, a souligné encore le mouvement de résistance yéménite Ansar Allah. Et de poursuivre, le projet nucléaire iranien est un exemple de la volonté indépendante. Aucun peuple ne pourra être à l'abri des conséquences de la tutelle étrangère sans cette volonté. Ansar Allah a en outre appelé le peuple de la région à se montrer solidaire les uns envers les autres pour faire face à l'arrogance coloniale. La résistance yéménite affirme également avoir attaqué des cibles à Jizan, une structure antimissile patriote. Les forces yéménites ont utilisé des drones et des missiles pour attaquer des cibles dans la ville de Jizan, dans le sud de l'Arabie saoudite. Des positions militaires sensibles à Jizan, des installations pétrolières d'Aramco et une structure antimissile patriote ont été visées avec 11 missiles et drones, a souligné le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Les forces armées yéménites intensifieront leurs opérations tant que l'Arabie n'est pas mis fin à son agression et à son blocus contre notre pays, a mis en garde le porte-parole des forces armées yéménites. De nouvelles sanctions américaines ne favorisant pas un sommet Biden-Poutine, selon le Kremlin. Le Kremlin a jugé que de nouvelles sanctions américaines contre la Russie, imminentes, selon la presse aux États-Unis, ne vont pas favoriser l'organisation du sommet Biden-Poutine proposé par la Maison-Blanche. C'est évident que les sanctions probables dont il est question ne vont pas favoriser une telle rencontre, a estimé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avant de souligner qu'il reviendra aux deux présidents de décider si cela empêchera ou n'empêchera pas le déroulement du sommet. Nous condamnons toutes les initiatives de sanctions, nous les jugeons illégales, a-t-il conclu. Un jour après que Joe Biden, président américain, a appelé à la désescalade dans les relations avec la Russie, tout en introduisant une nouvelle série de sanctions, un avion de reconnaissance américain RC-135 a été intercepté en train de se diriger vers les frontières russes au-dessus du Pacifique. Ce 16 avril, après que les radars russes au-dessus du Pacifique ont repéré une cible aérienne s'approchant de la frontière, un MiG-31 a été envoyé depuis le Kriach du Kamchatka pour l'accompagner. Son équipage a identifié la cible comme un avion de reconnaissance RC-135 appartenant à la force aérienne américaine. L'OMC promet son soutien pour assurer l'inocuité des vaccins contre la COVID-19 en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé, OMC, a déclaré avoir joint ses forces à celles des gouvernements africains en vue de renforcer l'inocuité des vaccins contre la COVID-19 alors que leur déploiement sur le continent gagne en vitesse. Machid Dissomoueti, directrice régionale de l'OMC en Afrique, a déclaré que l'établissement de systèmes de surveillance robustes est devenu une priorité afin de s'assurer que l'administration de ce vaccin parmi les groupes à haut risque entraîne aussi peu d'effets secondaires que possible. Chaque injection de vaccin nous rapproche de la fin de cette pandémie, a déclaré Mme Moeti dans un communiqué publié à Nairobi. Toutefois, cette entreprise historique n'est pas sans risque. Les pays africains ont mis en place cette réglementation stricte et ils restent vigilants face aux effets secondaires et face à tout événement négatif et grave susceptible de survenir à la suite de la vaccination, a-t-elle observé. L'OMC a établi des partenariats avec les pays africains pour gérer les risques potentiels découlant de l'inoculation contre le coronavirus, a-t-elle précisé encore. L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait croître de 3,4% en 2021 selon le FMI. L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait croître de 3,4% en 2021 après la contraction de 1,9% observée en 2020, indiqué jeudi le Fonds monétaire international. Selon le dernier rapport intitulé « Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne », la croissance de la région sera soutenue par l'amélioration des exportations et des prix des produits de base. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Rouhani aux Occidentaux. Vous avez démontré que vos engagements n'ont aucune valeur, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président iranien Hassan Rouhani a haussé le ton contre les Occidentaux avec lesquels l'Iran aurait est en négociation pour ramener les États-Unis à l'accord nucléaire de 2015. Lors de la cérémonie d'inauguration de plusieurs projets pétrochimiques, il a réitéré nouvelle fois que l'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire et que le programme nucléaire de l'Iran est strictement pacifique, tout en assurant qu'il est capable d'enrichir l'uranium à 90%. Commentant l'inquiétude de l'Europe et des États-Unis exprimée après que l'Iran a annoncé avoir entamé l'enrichissement de l'uranium à 60%, et il a jugé qu'elle n'est pas à sa place. Les Européens avaient qualifié ce développement iranien de dangereux, car la production de l'uranium hautement enrichi est en fait, selon leur version, une étape importante vers la production d'une arme nucléaire. À cet égard, le président Rouhani a affirmé que son pays était capable de procéder à un enrichissement à 80%, mais ne cherche pas à fabriquer la bombe atomique. Et c'est vous qui courez derrière la bombe atomique depuis de longues années. Vous en avez plein dans vos dépôts et vos arsenaux et vous en fabriquez chaque année de nouvelles, a de souligner le président iranien Hassan Rouhani, et de poursuivre: si vous revenez à vos engagements dans le cadre de l'accord nucléaire, nous reviendrons immédiatement à nos engagements et nous n'enrichirons pas plus que 3,67% et nous renoncerons à l'enrichissement à 60% et 20%, a martelé le président iranien Hassan Rouhani. L'Iran a démontré qu'il respectait ses engagements et leur était fidèle, alors que vous avez démontré que vos engagements n'ont aucune valeur. L'Iran parle avec noblesse et se comporte avec noblesse et agit avec morale, respectant ce qu'il a promis, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Selon le président Rouhani, aussi bien les États-Unis que les autres pays de l'accord nucléaire n'ont d'autre moyen que de revenir à de l'accord 22-31 et au respect total de l'accord. À ce moment, nous passerons aux vérifications sans que cela ne prenne beaucoup de temps. Par la suite, nous reviendrons à tous nos engagements, a-t-il précisé encore. Le mercredi 14 avril, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, avait mis en garde contre des négociations qui traînent en longueur. Selon l'honorable Ayatollah Khamenei, les Européens sont trop dépendants des États-Unis pour pouvoir adopter une position indépendante et juste.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 11 avril 2021. La République islamique d'Iran a dévoilé samedi de nouvelles réalisations nucléaires à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire. À cette occasion, le président iranien Hassan Rouhani a annoncé la mise en service de nouvelles cascades de centrifugeuses modernisées permettant d'enrichir plus rapidement dans le complexe nucléaire de Natanz. Le président Rouhani a souligné que personne au monde ne pouvait empêcher l'Iran de poursuivre son programme nucléaire pacifique et que ces nouvelles réalisations révélaient en effet le savoir-faire technologique de l'Iran. ces annonces interviennent dans un contexte, en effet, de négociations intensives entre l'Iran et les autres signataires du PGAC, Plan Global d'Action Conjointe, dans le cadre de la commission mixte de l'accord nucléaire à Vienne. L'Iran soutient que toutes les sanctions imposées et réactivées en effet par l'administration Trump devraient être supprimées de façon vérifiable avant de revenir au plein respect de l'accord nucléaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette journée importante, la Journée nationale de la technologie nucléaire, ces négociations, les conditions préalables de la République islamique d'Iran et bien entendu le positionnement des États-Unis et de l'Europe envers l'accord nucléaire et son avenir. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Rien ne garantira la conclusion d'un prochain accord avec Téhéran si les États-Unis ne peuvent parvenir à un accord avant que l'accord intérimaire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ne prenne fin dans moins de 2 mois, a averti un responsable iranien. L'agence de presse japonaise Kyodo News, citant un responsable iranien, a rapporté: selon le plan proposé par Téhéran, lors d'une réunion officielle le 29 mars à Francfort et acceptée par toutes les parties lors de la réunion virtuelle de la commission mixte tenue le 2 avril, les États-Unis doivent lever toutes les sanctions imposées ou réactivées sous l'administration Trump. Avec la présence de la délégation diplomatique de la République islamique d'Iran, des pays 4+1, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et du secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure qui y assiste en tant que coordinateur, le nouveau tour de pourparlers de la commission mixte a commencé le mardi 6 avril pour examiner les conditions préalables de l'Iran pour le retour des parties à leur engagement dans le cadre du PGAC après la levée pratique de toutes les sanctions imposées illégalement par les États-Unis et la vérification des faits par la partie iranienne. La République islamique d'Iran, qui avait réduit ses obligations conformément aux articles 26 et 36 de l'accord sur le nucléaire, suite à la violation par les 3 pays européens de leurs obligations et au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, insiste sur la nécessité de lever pratique de toutes les sanctions pour revenir à ses engagements. Dans le même ordre d'idées, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, qui dirige la délégation iranienne à Vienne, a déclaré à Press TV: tant que les États-Unis n'ont pas levé toutes les sanctions et ne se sont pas retournés à leur engagement, les activités nucléaires iraniennes, surtout dans le domaine de l'enrichissement, ne seront pas arrêtées, ni même réduites. En rappelant: notre enrichissement de 20% se poursuit maintenant avec un rythme plus accéléré que celui prévu dans la loi du Parlement iranien. Il a conclu en martelant: ce processus se poursuivra de la même manière jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé selon lequel les États-Unis lèvent toutes les sanctions, comme cela a été souligné à maintes reprises. Toutes les sanctions doivent être levées en une seule étape.
Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, et M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, Pique, à votre spectateur. Je trouve pas Mme Meidani qui est une géopoliticienne.
Hier, à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, M. Michel, la République islamique d'Iran a dévoilé de nouvelles réalisations nucléaires. Le président Rouhani a annoncé notamment l'inauguration de nouvelles lignes de centrifugeuses de type IR-5 et IR-6. Dans quelle mesure ces réalisations ont fait basculer les rapports de force, en particulier dans le cadre des négociations et des récentes négociations à Vienne, à M. Michel?
L'Iran est dans une position de respect de la loi internationale et la peine de ne pas avoir fait confiance et de ne pas faire intimider Trump, lorsqu'il s'est retiré des accords de Genève, il a traité le dossier comme s'il s'agissait d'un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. Il a oublié que c'était un accord international garanti par les Européens, dont pas par Macron, mais aussi par la Chine et la Russie. Ils ont surtout oublié que cet accord est garanti par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y avait une soirée hier soir consacrée à la politique étrangère de un espèce de bilan à partir d'un reportage américain du général Pagoud et du politicien d'ailleurs conservateur de la troisième partie qui était consacrée au contre bilan, c'est qu'il ne s'est pas confirmé qu'entre le pari pro-israélien qui est l'objet du sportage du PHDC. Derrière le lobby impact, il y a le dirigeant politique de l'État, Jared Kushner, le genre de qui a épousé Ivan Castro. C'est lui qui était à la main d'œuvre pendant la présidence de Trump. Et le documentaire révélait ce que nous avons dit depuis longtemps, c'est une préoccupation personnelle et familiale, puisque Jared Kushner et Ivan Castro. Ça vous explique pourquoi le sabotage de la stabilité a été au cœur de la géopolitique de Trump.
Monsieur Michel, apparemment, nous avons un problème technique parce que, bon, on ne vous entend pas très bien. Donc, en attendant que ce problème soit réglé, nous allons continuer le débat avec Madame Midani. Restez avec nous, Monsieur Michel, s'il vous plaît. Madame Midani, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends, mais j'ai très mal entendu toute l'intervention de Monsieur Michel.
Nous aussi, malheureusement. Donc,
je vous salue. Oui.
Merci, Madame Midani, d'être en ligne avec nous. Toujours concernant justement, alors deux questions importantes. D'une part, bien sûr, ces réalisations nucléaires qui ont été dévoilées, inaugurées hier à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire. Et parallèlement, presque simultanément, en effet, les négociations qui se déroulent entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire sur la façon de, non pas de réintégrer en effet les États-Unis dans l'accord nucléaire, mais plutôt de faire lever les sanctions injustes, illégales et unilatérales des États-Unis. Quel premier constat tirez-vous, Madame Midani, de ces réalisations et de leur impact, bien sûr, sur le cours des pourparlers entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire?
Alors d'abord, je voudrais vous saluer et saluer l'ensemble du peuple iranien et de la direction iranienne et toute l'équipe aussi de Presse TV. Je trouve que c'est une démarche qui est très, très importante déjà d'arriver à cette suprématie au niveau, à ce haut niveau scientifique à l'ombre de toutes ces mesures imposées par les Américains et par leurs alliés, en fait, contre l'Iran, contre toutes les possibilités d'évolution et d'échange sur le plan scientifique. Je trouve que cette démarche aujourd'hui, je voudrais saluer déjà l'évolution scientifique importante et surtout au niveau de la fabrication aussi des armes, mais aussi de l'avancée nucléaire, qui est tout à fait leur droit, qui est tout à fait le droit du peuple iranien et de l'État iranien, malgré toutes ces tergiversations des Américains et de leurs alliés européens sur cette, quel que soit l'objectif de ces mesures, de ces avancées d'ailleurs, qui sont affirmés à plusieurs reprises que c'est des objectifs de paix pacifique et humanitaire, mais malgré tout, même si c'était des objectifs de fabrication de la bombe nucléaire, c'est tout à fait son droit. Je voudrais quand même rappeler que dans la région, l'entité israélienne possède quand même plus de 350 têtes nucléaires à objectif militaire, et dont personne ne parle, et il est important de les dénoncer. Ça, c'est important aussi sur le plan tactique, je dirais, de lever le voile dans cette journée de l'évolution de la science sur les nouvelles réalisations scientifiques iraniennes, en même temps que se déroulent les discussions, je dirais, ou les rencontres à Vienne pour le retour des Américains, en fait, et des Européens aussi, qui n'ont jamais respecté les accords qui ont été signés en 2016 qui devaient être signés, et pas seulement signés, ils ont été signés, mais ils n'ont jamais respecté la condition première qui était la condition de levée de l'ensemble de ces mesures coercitives sur unilatérales sur le peuple iranien et sur l'État iranien. Donc aujourd'hui, c'est très très bien. Je voudrais exprimer aussi toute ma solidarité parce que les États-Unis utilisent ces soi-disant sanctions, mais qui sont que des mesures américaines unilatérales, à tous les pays qui lèvent la tête et qui n'acceptent pas leur diktat au niveau de leur politique et qui ne se laissent pas piller leur propre richesse par eux. Donc, ça c'est aussi, je voudrais quand même souligner que ce n'est pas seulement le cas de l'Iran. Ils utilisent cette arme contre la Syrie, contre l'Irak, contre le Venezuela, contre Cuba, contre tous les pays qui lèvent la tête face à leur diktat, y compris d'ailleurs aujourd'hui contre la Chine et la Russie, parce que ils ont une politique avec laquelle les Américains ne sont pas d'accord. Donc cette politique va leur retomber sur la figure.
Merci infiniment, Madame Midani. Apparemment, nous n'avons toujours pas Monsieur Michel. Nous allons continuer avec vous, Madame Midani.
Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Parce que moi, j'entends l'écho aussi.
Mm-hmm. Ça va maintenant? Vous nous entendez bien, Madame Midani?
Moi, je vous entends, mais quand je parle, j'entends double écho.
Apparemment, il y a visiblement un problème technique. Madame Midani, concernant les conditions préalables de la République islamique d'Iran, qu'en pensez-vous? Premièrement, la levée de toutes les sanctions, et deuxièmement, la possibilité pour la République islamique d'Iran de vérifier les faits pendant, en effet, entre 3 et 6 mois, c'est-à-dire pouvoir exporter son pétrole et en recevoir les revenus par les canaux bancaires.
Absolument. Moi, je soutiens parfaitement cette politique et cette condition de l'Iran parce qu'elle est tout à fait légitime étant donné tous les jeux américains et européens, donc tous les pays de l'OTAN aussi, qui n'hésitent pas à signer des choses et qui ne les mettent jamais et qui ne respectent jamais leurs engagements, mais qui, en plus, ont le toupet, je dirais, d'exiger de l'autre partie d'appliquer ces mesures et d'appliquer cet accord, alors qu'eux le trahissent complètement, de bout en bout. Donc, c'est tout à fait légitime pour l'État iranien d'exiger, de vérifier non seulement la levée des sanctions, ce qu'ils appellent « sanctions », entre guillemets, mais aussi de vérifier les effets et puis de remettre tous les circuits en route pendant 3 mois et 6 mois de manière à être sûr que tout ça a été appliqué et que effectivement il y a eu une réelle levée des sanctions et un réel fonctionnement, je dirais, de tous les réseaux, donc des réseaux bancaires. Pas seulement le réseau, mais en fait que toutes les transactions sont effectivement, ont repris et ont été remises en route, que l'Iran ait bien reçu l'argent équivalent à son pétrole et que l'Iran au pétrole vendu et que aussi l'Iran ait pu, bien sûr, vendre et acheminer son pétrole. Donc, en fait, et puis toutes les relations commerciales avec le monde comme il se doit et normalement, comme ça doit l'être, je dirais, pour un pays souverain qui se respecte et qui a et que toutes les relations régies par les lois internationales soient tout à fait normalisées et reprennent leur cours normal entre l'Iran et l'ensemble des pays de la planète. Alors, et aussi qu'elles puissent échanger avec des compagnies, qu'elles ce soient des compagnies américaines, européennes, etc. Et que ces compagnies puissent travailler normalement aussi avec l'Iran sans qu'il y ait des mesures coercitives qui interviennent sous quelque prétexte que ce soit.
Madame Midani, alors pour le principal négociateur iranien dans les négociations, Abbas Araghchi, l'opposition de Washington à la levée des sanctions, surtout des sanctions non nucléaires, constitue le principal obstacle à l'avancée des pourparlers. Désormais, bien entendu, il appartient à l'administration Biden de décider de se conformer ou non à la résolution 2231 du Conseil de sécurité ayant approuvé l'accord. À quelle réaction, à quelle approche de la part de l'administration Biden faudrait-il s'attendre si elle est vraiment sérieuse, comme d'ailleurs elle a annoncé ces derniers temps, dans sa volonté de réintégrer l'accord nucléaire?
En fait, la première réaction, ce serait qu'eux se mettent à respecter aussi et revenir à l'accord nucléaire et respectent tous les articles de l'accord et qu'ils arrêtent les sanctions, qu'ils lèvent les sanctions et surtout qu'ils restituent à l'Iran son argent qu'il bloque depuis des années et en fait aussi de remettre en route, je dirais, l'ensemble de permettre la remise en route de l'ensemble des relations avec les pays et avec tout l'entourage mondial, l'environnement, qui est jusqu'à maintenant entravé complètement par les États-Unis. L'administration Biden, pour moi, elle doit aussi arrêter les hostilités vis-à-vis de l'Iran et de la même manière imposer à ses alliés de la région, je dirais, d'arrêter leurs hostilités vis-à-vis de l'Iran. Et que donc les alliés de la région, j'entends l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et puis l'entité sioniste occupante aussi qui n'arrête pas de mener des hostilités contre l'Iran. D'ailleurs, la dernière en date, ça a été aussi que Israël ait attaqué le pétrolier iranien en mer Rouge. Donc tout ceci est important et je crois que ce sont des aspects qui sont liés à ce retour à l'accord, pas seulement nucléaire, mais aussi à l'ensemble, un retour à la normale de l'ensemble des relations commerciales et d'échanges entre l'Iran et tous les pays du monde.
Et une toute dernière question, Madame Midani, quel rôle les Européens veulent ou peuvent jouer dans ces négociations?
En fait, jusqu'à maintenant, les Européens, ils ont voulu toujours ils sont très intéressés parce que les compagnies européennes ont envie et besoin de travailler avec l'Iran, puisque je peux dire quand même que la situation économique de ces pays est assez catastrophique, hein, surtout à l'ombre du corona qui a d'ailleurs qui a montré au monde à quel point leur gestion est mauvaise, hein, je dirais. Donc ils essayent de pousser. Il y a beaucoup de compagnies, dont Total et autres, qui voudraient travailler avec l'Iran et qui ont essayé à un moment donné. D'ailleurs, l'Union européenne a affirmé quand même à plusieurs reprises qu'ils voudraient eux continuent à respecter l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, mais ils ont été rappelés à l'ordre systématiquement par les États-Unis. Et donc là, ils ont essayé de jouer un intermédiaire pour et pousser les États-Unis à revenir à cet accord. Jusqu'à maintenant, au moment du règne de Trump, ils n'ont jamais réussi parce que Trump était très déterminé à mener cette guerre contre l'Iran. On peut dire quand même que la situation économique des États-Unis n'est pas bonne non plus, et que beaucoup de compagnies ont envie de travailler aussi bien avec l'Iran aussi. Mais bon, donc Biden essaye d'envelopper, je dirais, la politique américaine par un gant de velours. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas, mais je crois que l'Iran a tout à fait raison de prendre toutes les mesures de prudence qui montrent quand même que qui montrent que l'Iran ne cédera pas sur ses droits les plus légitimes et les plus élémentaires, et que l'administration américaine se doit d'accepter et de se soumettre à la loi internationale. Ceci dit, ça n'empêche quand même que les Américains, en fait l'administration Biden, essaye aussi de faire des pressions sur les alliés de l'Iran, sur la Russie, sur la Chine. On voit qu'ils essayent de monter des guerres, par exemple là en Ukraine contre la Russie, qu'ils veulent aussi monter des problèmes aussi à la Chine par rapport aux Ouïghours et par rapport à Taïwan. Donc, ils essayent de titiller tout le monde pour créer des pressions et pour diminuer...
Merci, Madame Idani.
Diminuer des... diminuer l'impact des accords stratégiques de l'Iran avec ses alliés qui sont importants aujourd'hui, la Chine et la Russie.
Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien de questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Ukraine, une bombe américaine en Europe. Des chasseurs F-16 américains envoyés depuis la base d'Aviano, Frioul, sont engagés dans de complexes opérations aériennes en Grèce, où hier a commencé l'exercice Iniokos 21. Ils appartiennent au 510e Fighter Squadron, basé à Aviano, dont le rôle est indiqué par son emblème, le symbole de l'atome avec trois éclairs qui frappent la Terre, flanqués de l'aigle impérial. Ce sont donc des avions d'attaque nucléaire qui sont engagés par l'US Air Force en Grèce, qui ont concédé en 2020 aux États-Unis l'utilisation de toutes ces bases militaires. Participe aussi à l'Iniokos 21 des chasseurs bombardiers F-16 et F-15 d'Israël et des Émirats arabes unis. L'exercice se déroule sur la mer Égée au bord de l'air comprenant mer Noire et Ukraine, où se concentre le maxi-exercice Defender Europe 21 de l'armée américaine. ces manœuvres militaires et d'autres qui font de l'Europe une grande place d'armes créent une tension croissante avec la Russie focalisée sur l'Ukraine. L'OTAN, après avoir désagrégé la Fédération yougoslave en insérant le coin de la guerre dans des fractures internes, s'érige maintenant en paladin de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le président du comité militaire de l'OTAN, le Britannique Stuart Perch, chef de la Royal Air Force, rencontrant à Kiev le président Zelensky et le chef d'état-major Romchak, a déclaré que les alliés OTAN sont unis pour condamner l'illégale annexion de la Crimée par la Russie et ses actions agressives en Ukraine orientale. Il a ainsi répété la version selon laquelle ce serait la Russie qui aurait annexé par la force la Crimée, ignorant que ce sont les Russes de Crimée qui ont décidé par un référendum de se détacher de l'Ukraine et de rentrer en Russie pour éviter d'être attaqués comme les Russes du Donbass pour les bataillons néo-nazis de Kiev. Ceux utilisés en 2014 comme force d'assaut dans le putsch de Place Maïdan, amorcé par des snipers géorgiens qui tiraient sur les manifestants et sur les policiers, puis dans les actions successives, villages mis à feu et à sang, militants brûlés vifs à la maison des syndicats d'Odessa, civils sans armes massacrés à Mariupol, bombardés au phosphore blanc à Donetsk et Lugansk. Un coup d'État sanglant géré par les États-Unis, l'OTAN, dans le but stratégique de provoquer en Europe une nouvelle guerre froide pour isoler la Russie et renforcer en même temps l'influence et la présence militaire des États-Unis en Europe. Le conflit dans le Donbass, dont les populations se sont auto-organisées dans les républiques de Donetsk et Lugansk avec leurs propres milices populaires, a traversé une période de relative trêve avec l'ouverture des colloques de Minsk pour une solution pacifique. Mais à présent, le gouvernement ukrainien s'est retiré des colloques au prétexte qu'il refuse d'aller à Minsk car la Biélorussie ne serait pas un pays démocratique. En même temps, les forces de Kiev ont repris les attaques armées dans le Donbass. Le chef d'état-major Romchak, que Stuart Perch a félicité au nom de l'OTAN pour son engagement dans la recherche d'une solution pacifique du conflit, a déclaré que l'armée de Kiev se prépare pour l'offensive en Ukraine orientale et que dans cette opération est prévue la participation d'alliés OTAN. Ce n'est pas un hasard si le conflit dans le Donbass s'est rallumé quand, avec l'administration Biden, la charge de secrétaire d'État a échu à Anthony Blinken. D'origine ukrainienne, il a été le principal organisateur du putsch de Place Maïdan dans le rôle de vice-conseiller de la sécurité nationale dans l'administration Obama-Biden. Comme vice-secrétaire d'État, Biden a nommé Victoria Nuland, aide organisatrice en 2014 de l'opération USA qui a coûté plus de 5 milliards de dollars pour instaurer en Ukraine le « bon gouvernement » comme elle déclara elle-même. Il n'est pas exclu qu'ils aient maintenant un plan promouvoir une offensive des forces de Kiev dans le Donbass soutenue de fait par l'OTAN. Elle mettrait Moscou devant un choix qui tournerait dans tous les cas à l'avantage de Washington. Laisser massacrer les populations russes du Donbass ou intervenir militairement pour les soutenir. On joue avec le feu, pas au sens figuré, en allumant la mèche d'une bombe au cœur même de l'Europe.
Thank you.